franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous. Que se passe-t-il quand votre anniversaire coïncide avec un événement dramatique? Que se passe-t-il par exemple pour celles et ceux qui sont nés un 11 septembre? C'est la question à laquelle répond ce matin Mélissa Bounois sur Slate.fr. Elle-même est née un 11 septembre et elle raconte la difficulté qu'elle a depuis 2001 à célébrer son anniversaire. Auparavant, explique-t-elle, cette date, pour le monde entier, c'était la date anniversaire du cinéaste Brian De Palma, celle du chanteur Moby ou celle de l'assassinat de Salvador Allende. Mais depuis 2001, elle est devenue celle d'un autre anniversaire qui écrase tous les autres. Et chaque fois que j'ai eu à donner ma date de naissance, que ce soit pour obtenir des papiers d'identité ou pour organiser une fête, je voyais les visages dépités des autres en face de moi. Puis s'en suivait souvent une discussion sur New York et sur ce que je faisais ce jour-là. Et quand en 2008, je suis parti faire mes études aux États-Unis, je me demandais si je devais même évoquer sur le campus le fait que j'étais né le jour où près de 3000 Américains étaient morts. 15 ans déjà, c'est le titre à la une de West France ce matin. 11 septembre, le jour où la guerre a commencé, titre de son côté Le Figaro, large photo des tours jumelles et retour sur cette journée qui a changé le cours du 21e siècle, papier signé Renaud Girard, qui nous explique qu'après les attentats du 11 septembre, les ripostes déclenchées par les États-Unis, tout d'abord en Afghanistan, puis en Irak, ont eu pour effet de renforcer l'idéologie islamiste qu'il désirait pourtant annihiler, et Al-Qaïda a enfanté ensuite le monstre Daesh. Le groupe État islamique, dont se revendiquent désormais de plus en plus de femmes, tous les journaux reviennent ce matin sur le premier commando terroriste féminin démantelé en France.
Oui, des terroristes téléguidés depuis la Syrie, titre La Charente Libre.
Tandis que La Nouvelle République nous explique que les femmes sont devenues les nouvelles armes de Daesh, récit dans Libération de la traque de celle qui préparait donc un attentat géolocalisation filature. Tout a été mis en œuvre pour interpeller le plus rapidement possible ce que le procureur de Paris a donc qualifié de premier commando de femmes. Des femmes qui pourtant ne sont pas censées passer à l'acte, estime dans le journal la chercheuse Géraldine Cassut. Mais quand elles sont endoctrinées, elles deviennent irrécupérables, rétorque l'islamologue Mathieu Guider dans les colonnes du Figaro, en pointant l'une des failles de la sécurité française. Dans les services de surveillance, il existe très peu d'agents féminins capable d'infiltrer de tels réseaux. Et puis à la une de Centre Presse, la photo d'une voiture terrorisme, une voiture SEM, le trouble sur l'A75, un petit peu le même genre de voiture, un véhicule immatriculé en Aveyron, stationné sous un pont de l'autoroute à Lodève, renfermé des bonbonnes de gaz, un petit peu le même genre de voiture que celle qu'on a retrouvée à côté de Notre-Dame à Paris, dans un contexte national tendu, souligne le journal. Cette voiture a mobilisé un important dispositif de gendarmerie hier.
Et puis Frédéric, tous les journaux ce matin reviennent par ailleurs sur les cadeaux fiscaux dévoilés hier par le gouvernement.
Impôts à qui profite la baisse? Questionne la Dépêche du Midi. Qui est concerné? S'interroge le Télégramme. Pour qui et combien renchérit Midi Libre, dans lequel l'essayiste libéral Nicolas Bouzou estime que ces annonces sont certes un bon calcul politique, mais une très mauvaise opération économique. Dans le budget 2017, les baisses d'impôts s'élèvent à 2 milliards d'euros. 5 millions de contribuables en bénéficieront, des baisses de 20% sur l'impôt sur le revenu, grand gagnant les classes moyennes, nous dit-on, les retraités, mais aussi les entreprises. La baisse d'impôts est un grand classique des budgets préélectoraux, note Daniel Muraz dans le courrier Picard. Et cela confirme que la campagne est bel et bien lancée, confirme de sa côté Hervé Chabot dans l'Union, tandis que dans la République des Pyrénées, Jean-Michel Elvig souligne que même si cette mesure est socialement juste, elle apparaît surtout comme politiquement opportuniste à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Dernier cadeau avant la présidentielle, titre d'ailleurs Le Parisien, avec un amusant dessin de rançon, un dialogue entre deux messieurs. Mais si la gauche baisse les impôts, que va-t-il rester à la droite? Se demande le premier, réponse du second. Pas beaucoup d'argent dans les caisses. La droite, dont on connaît maintenant les candidats à la primaire, 8 candidats. Et une surprise, titre Le Figaro, vous venez de conversé avec l'un de ses candidats, Hervé Maruton. Et la surprise, d'après le Figaro, c'est que Frédéric Lefebvre pourrait bien réussir à se présenter lui aussi au nom de son micro-parti. En revanche, Michèle Alomari, elle ne sera pas candidate pendant quelque temps. Elle avait fait part de sa disponibilité, mais non, c'était sans doute uniquement pour faire parler d'elle. Michèle Alomari, qui fête aujourd'hui ses 70 ans, on lui souhaite bien évidemment un excellent anniversaire.
Lui, il aura 40 ans le 22 mai prochain et il disputera demain sa dernière course cycliste.
Et c'est Jean-François Fournel qui lui rend hommage dans La Croix, évoquant les adieux discrets d'un grand méconnu du cyclisme, Jean-Christophe Perrault, c'est son nom, a pourtant décroché la médaille d'argent des JO de Pékin en 2008. C'était en VTT. Et 8 ans plus tard, il était arrivé deuxième du Tour de France en 2014. Un coureur titulaire d'un diplôme d'ingénieur, pas si courant dans le milieu, un fort en maths, qui aura donc été l'un des 4 Français capables de poser ses pieds sur le podium de la Grande Boucle au cours de ces 20 dernières années. Et pourtant, même les spécialistes du sport ont parfois du mal à se rappeler son nom parce qu'il n'a jamais joué le jeu des paillettes et des strass, jamais aimé les interviews. Un champion atypique, un champion trop discret qui tirera sa révérence au monde du cyclisme demain, dernière étape du Tour d'Espagne. Demain donc, Jean-Christophe Perrault, c'est son nom, raccrochera son vélo. De son côté, l'équipe revient brièvement sur l'arrivée d'un groupe chinois au capital de la JOCR. C'est déjà ce qui s'est passé pour les clubs de Nice et de Sochaux. Dessin de Lasserre à la dernière page du quotidien sportif. Les acheteurs observent ce qu'ils prennent pour une statue grotesque en survêtement coiffé d'un bonnet bleu et blanc. Puis ils demandent « On peut garder la statue de Confucius ?» Réponse de l'interlocuteur « C'est pas une statue, c'est Guirou ». Sourire aussi à la lecture d'un papier de la Voie du Nord ce matin.
Oui, alors faut-il avoir peur des compteurs électriques, Kinky ?
Faut-il avoir peur ou bien plutôt sourire, donc, des mésaventures de différents usagers. Le fait est que depuis l'installation du dit compteur, certains se plaignent de phénomènes bizarres. À 2h du matin, des lampes de chevet qui s'allument et s'éteignent toutes seules. Et quand j'ai voulu lire une histoire à ma fille dans sa chambre, ça faisait château hanté, rapporte une mère de famille. D'autres évoquent des ordinateurs constamment en surchauffe. D'autres encore décrivent des volets électriques qui s'ouvrent en pleine nuit ou bien se referment en plein jour. Mais dès lors, comment expliquer de telles manifestations étonnantes, un peu flippantes? Aucune réponse pour l'instant. D'après la société Linky, ce sont les appareils électriques des usagers qui sont vraisemblablement défectueux. D'ailleurs, à propos d'électricité, savez-vous ce que répond le couturier Karl Lagerfeld quand on lui demande d'où il tient son énergie, Patricia?
Non.
Eh bien, il répond EDF. Envie, désir et force, EDF, le gourou de la mode, on dit même le Kaiser de la mode, a souvent des phrases bien senties, des phrases savoureuses mais souvent cruelles que Marie-France a cette semaine répertoriées sur son site « Âme sensible, s'abstenir ». Citation donc de Karl Lagerfeld, « J'aurais trouvé ça difficile d'avoir une fille laide ». Citation donc de Karl Lagerfeld, « Ce sont les grosses bonnes femmes assises avec leur paquet de chips devant leur télévision qui disent que les mannequins minces sont hideuses ». Là, c'est franchement méchant, mais Karl Lagerfeld a parfois des saillies dignes de Michel Audiard. Si je sais combien j'ai sur mon compte bancaire, mais c'est une question de pauvre, ça. Ou encore, le régime est le seul jeu où l'on gagne quand on perd. Au total, le site a listé 15 citations, dont certaines sont déjà devenues sans doute aussi célèbres que le personnage. Lagerfeld, qui fête aujourd'hui ses 83 ans, on lui souhaite bien évidemment un excellent anniversaire.
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.
La météo avec Via Santé, la mutuelle qui accompagne la santé des entreprises et des particuliers. Via Santé Mutuelle, groupe AG2R, la mondiale.
À Météo France, Jean-Pierre Rameau, ça se gâte en Bretagne.
Effectivement, et en cause une faiblesse provisoire de l'anticyclone. Du coup, une perturbation pluvieuse et venteuse s'invite sur nos côtes bretonnes. Les pluies sont faibles, mais le vent de sud-ouest souffle quand même jusqu'à 50 km par heure. Petite pluie et vent se décalent ensuite lentement vers l'intérieur des terres pour toucher le Morbihan, les Côtes d'Armor et le Cotentin avant la fin de la matinée. À l'avant de cette perturbation de la façade atlantique à la Belgique, le ciel se voile progressivement, contrariant parfois le soleil, mais l'ambiance reste quand même bien agréable. Sur le reste du pays, l'ensoleillement est généreux. Attention, des averses localement orageuses se produiront en cours d'après-midi et soirée sur le relief des Pyrénées, des Alpes et de la Corse. Côté température, les maximales sont toujours supérieures aux normales saisonnières, avec 20 degrés à Brest, 23 à Boulogne-sur-Mer, 24 à Vannes, 28 dans la capitale, 30 à Gap et jusqu'à 33 degrés à Avignon.